tutti e a tutti, que la grâce et la paix de Jésus-Christ soient sur nous. Nous sommes là pour lui donner gloire et honneur et nous allons le faire en ouvrant la parole de Dieu dans l'Épître aux Romains, chapitre 13. Trois versets qui sont très importants pour chacun de nous, mais je vais me retenir sur un seul mot. Chapitre 13, verset 11 à verset 14. Verset 11, « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. » Cela importe parce que vous savez dans le temps dans lequel nous vivons. C'est des temps mauvais. Paul l'avait dit, hein, nous vivons des temps mauvais. Rachetez les temps. Ils sont mauvais. Regardons tout autour de nous. Et le Seigneur, il nous a promis qu'un jour reviendra. Et nous savons que c'est bientôt. Quand, on ne le sait pas. Mais nous savons que c'est bientôt. Et il continue, il dit, c'est l'heure de vous réveiller afin du sommeil. Est-ce que vous dormez? Est-ce que nous dormons? Ben, la Bible nous dit, c'est l'heure de vous réveiller. Pourquoi? Parce que c'est le dernier temps. Parce qu'on a un travail à faire. C'est l'heure de nous réveiller. Vous me direz, mais moi je suis bien réveillé. Hein? Mais non, Dieu te dit que tu es réveillé si tu ne fais pas son œuvre. C'est l'heure de vous réveiller, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Hein? Peut-être qu'il y a des années que nous avons cru. Hein? Et ici la Bible nous dit, le salut il est plus près de toi, du moment où tu as cru jusque-là. C'est bientôt que le Seigneur il va revenir. Verset 12, la nuit est avancée, les jours approchent, on vit des temps difficiles. La noirceur du monde qui ne veut pas de Dieu. On est dans la nuit, dans les ténèbres. Mais les jours approchent. Voilà, c'est ce qu'il nous dit la parole de Dieu. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de lumière. Revêtons les armes de lumière. Verset 13. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des orgies et des livronneries, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Oui, réveillons-nous et marchons. C'est ce qu'il dit au verset 13, marchons. Qu'est-ce qu'il vous rappelle ce mot marchons? Au français, je parle. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Marchons, marchons. Moi, je fais ça, j'ai pris l'hymne français. Hein. Je ne l'ai pas par cœur, hein. Mais j'ai pris, c'est ce qu'on chante toujours. Hein. Allons, enfants de la patrie, allons, enfants de Dieu. Allons, enfants de Dieu. Les jours de gloire, hein, eux, ils disent, est arrivé, parce que c'était un révolutionnaire, un chant révolutionnaire pour chasser hein, l'ennemi. Mais pour nous, c'est les jours de gloire, il va venir. Réveillons-nous, les jours de gloire, il va venir. Les seigneurs de gloire, il va arriver. Hein? Et ils dirent aux armes, aux citoyens, aux armes, enfants de Dieu. Vous me direz, mais devons-nous nous armer avec les armes? Quelles sont les armes? Ben, Éphésiens, il nous le dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Voilà pourquoi il dit, réveillons-nous. Pourquoi? Parce qu'il faut se revêtir des armes de Dieu. Hein? Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Philippiens 6. Nous sommes entourés par le diable, par les tentations, par des choses qui sont contre Dieu. Et le Seigneur, il nous dit, réveillez-vous et armez-vous, revêtez-vous des armes de Dieu. Et plus loin, il nous dit, verset 14 à 17, toujours dans Éphésiens, tenez ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Ça, c'est les armes de Dieu. Premièrement, la vérité pour ceinture. Et aujourd'hui, on vit dans un monde dans lequel il n'y a pas de vérité. On te dit oui quand c'est non, et on te dit non quand c'est oui. Chacun y marche pour lui-même. La cuirasse de la justice, on l'a vu ce matin, qui c'est qui nous donne cette cuirasse? C'est Jésus-Christ. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Dépouillez-vous donc des œuvres des ténèbres et revêtez-vous, enlevons de notre propre vie tout ce qui n'est pas selon Dieu et revêtons-nous de Jésus. Voilà pourquoi il faut se réveiller, parce que si on dort, on ne le fait pas. Et la justice, c'est la justice de Jésus-Christ qui nous a donné à la croix. Et ensuite, il nous dit, le zèle de l'évangile de paix. Oui, il faut que nous soyons zélés à porter cet évangile, que c'est le seul qui peut amener la paix. Aujourd'hui, il y a des nations qui crient « paix, 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 paix ». Mais Isaïe, il est clair, il est net, et Dieu, il est clair, il est net lorsqu'il dit « il n'y a pas de paix ». Parce que le seul qui peut apporter la paix, c'est Jésus-Christ. Et nous devons être zélés, avec le même zèle qu'il avait Jésus-Christ. Lui qui disait, les zèles de ta maison me dévorent. Ah, si nous pouvions dire autant. Le zèle de Dieu me dévore. Les choses changeraient. Et ensuite, c'est les boucliers de la foi. Ça, c'est encore les armes de Dieu. Les boucliers de la foi. Oui, car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. La foi, il nous fait avancer. Où il y a péril, où il y a souffrance, où il y a n'importe quoi, la foi, il nous fait avancer. Pourquoi? Comme il a dit les frères, car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Une autre arme, c'est le casque du salut. Oui, nous sommes sauvés par et à travers Jésus-Christ. N'ayons aucune crainte, aucune crainte. Et ensuite, c'est l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu, la Bible. Mais la parole nous dit, marchons. Et le titre de mon message aujourd'hui, c'est « En marche ». Nous sommes un peuple qui est en marche. Nous sommes dans un désert. Et nous sommes en train de marcher. Mais la question qu'on doit se poser, c'est marcher vers qui? Vers quel but? Vous savez, nous, en tant que chrétiens, hommes, femmes, riches, pauvres, je ne sais pas moi, on est tous en train de marcher. Et on a tous un but. Le but du croyant, c'est quoi? Je l'ai dit ce matin en faisant l'étude. Notre but, c'est de nous marchons vers une gloire éternelle. Vers une gloire éternelle et aussi vers une demeure éternelle. Ça, c'est le but pour lequel nous marchons, nous qui sommes chrétiens. Peut-être qu'on vit une vie misérable aujourd'hui. Mais sachons qu'au bout de cette marche, il y a la gloire. Il y a la gloire. Et il y a aussi cette demeure éternelle. Aujourd'hui, on paye un loyer, n'est-ce pas? Pour ceux qui payent un loyer dans leur demeure. Et des fois, on a du mal à y arriver. Pensons que nous avons une demeure éternelle. Et cette demeure, il nous attend. Pour ceux qui n'ont pas Jésus-Christ dans leur cœur, ceux qui n'appartiennent pas au Seigneur, quel est? Ils sont eux aussi en marche parce qu'il est réservé à tous de mourir une fois. Hein. On vient au monde et ensuite on meurt. Ça, c'est le rendez-vous auquel personne ne peut dire non, je ne vais pas. Mais leur but, c'est l'enfer. C'est l'effroi. C'est vraiment la souffrance, la peine. L'enfer, quoi. Et donc, voilà ici. Et aujourd'hui, beaucoup, même des chrétiens, ils se disent, mais je suis chrétien, mais regarde la vie que je fais. J'ai des souffrances, j'ai des peines, j'ai des malheurs qui me tombent dessus. Et regarde, celui-là, il est riche, il n'a aucune peine. C'est ce qu'il s'est posé la question aussi à Asaph. Regardez ce qu'il est dit dans les psaumes 49. Justement, il s'est posé cette question-là par rapport aux riches, aux gens auxquels tout est facile. Mais regardez ce que dit la parole de Dieu à propos de ces gens-là. Verset 17. Il dit, « Ne sois pas dans la crainte parce qu'un homme s'enrichit, parce que les trésors de sa maison se multiplient. » Car il n'emporte rien en mourant. Ses trésors ne descendent point après lui. Il aura beau s'estimer heureux pendant sa vie, on aura beau le louer des jouissances que tu te donnes, tu iras néanmoins au séjour de tes pères qui jamais ne reverront la lumière. Il n'emporte pas les riches. Ils font tout. Et encore une fois, on peut se dire, la Bible dit qu'ils n'emportent pas leur richesse. Hein. Et heureusement, n'est-ce pas? Parce que sinon, beaucoup d'enfants, ils seraient dans la peine. Ils n'emportent pas leur richesse. Mais ils vivent dans la richesse, mais leur fin, c'est le désespoir total. Nous, c'est exactement le contraire. Nous sommes dans le besoin, dans la tristesse, mais au bout de notre marche, nous savons qu'il y a la gloire et il y a cette demeure éternelle. Certaines personnes sont en marche, animées d'une fausse foi. Matthieu 25, il nous parle de ces vierges, des 10 vierges. Les deux étaient pareilles, elles avaient toute une lampe. Mais c'est ce qu'il manquait, c'est que 5, ils avaient de l'huile, et 5, ils n'avaient pas d'huile. Et ils étaient là pour attendre l'époux. L'époux, il a tardé. Qu'est-ce qu'il arrivait? Ils se sont endormis. Réveillez-vous! Alors l'époux, il est arrivé, et pour l'accueillir, il fallait allumer les lampes. Mais si on n'a pas l'huile, la lampe, elle ne s'allume pas. C'est quoi l'huile? L'huile, c'est le Saint-Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit. C'est le Saint-Esprit qui nous fait vivre cette vie antérieure des communions avec le Seigneur. Et qui dit vie antérieure, il dit automatiquement vie extérieure. Tandis que les 5 autres qui n'avaient pas l'Esprit, ils étaient là. Elles étaient là pour attendre l'époux. L'époux, c'est Jésus-Christ. Mais ils n'avaient pas l'esprit. Ils n'avaient pas de l'huile. Et qu'est-ce que c'est? Lorsque l'époux il est arrivé, leur lampe, ils n'avaient pas d'huile. Donc, ils n'ont pas vu. L'époux, il est arrivé. Ils se sont tournés plus tard vers l'époux. Mais l'époux, il a dit, je ne vous connais pas. Parce que c'est vrai que la Bible nous dit que c'est lui qui n'a pas l'esprit de Christ. Il ne lui appartient pas. Il y a des gens qui sont chrétiens extérieurement, mais pas intérieurement. C'est-à-dire qu'on peut voir quelqu'un constamment au culte, aux études bibliques et toutes ces choses-là, mais intérieurement, il n'a jamais été rempli ou habité par le Saint-Esprit de Dieu. Et c'est ça qui différencie ces 10 vierges-là, 5, ils avaient l'esprit et les 5 autres, ils ne l'avaient pas. Même ici, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a les apparences d'un chrétien. Mais un jour, lorsque le Seigneur il va venir, c'est lui qui va faire la distinction. Je ne te connais pas. Mes brebis, ils me connaissent. Mais ce qui compte, ce n'est pas seulement connaître le berger, mais il faut que les bergers nous connaissent. C'est ça la grande différence qu'il y a.
Voilà pourquoi il nous a dit,
même Jean, il nous a dit qu'ils étaient parmi nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'infiltrent parmi les chrétiens, parmi les croyants, pour se montrer qu'eux aussi sont comme ça. Mais à l'intérieur de nous-mêmes, d'eux-mêmes, ils ne le sont pas, parce que le Seigneur, il ne les connaît pas. On est en train d'étudier l'épître de Jude le mercredi. Et Jude, il a écrit à cette église et à nous aussi. Il a dit, j'aurais voulu vous parler du saint combat des saints, du salut. Il a dit, mais je me vois obligé de vous parler de ceux qui s'infiltrent parmi vous pour s'aimer des livrets. Et vous savez, livrer, c'est mauvais pour les bons grains. Et lorsqu'il y a dans une assemblée, parmi d'autres chrétiens, quelqu'un qui apporte une autre doctrine que celle de Dieu, automatiquement, il y a le désespoir. Il y a les divisions et tout ce reste-là. Voilà pourquoi nous devons être comme ces cinq vierges qui avaient l'esprit. Lorsque l'époux est arrivé, alors ils avaient en elles l'esprit qui leur donnait cette attente, l'espérance. L'espérance de tous ceux qui marchent pour le Seigneur, du retour du Seigneur Jésus. Encore une fois, réveillez-vous, car nous ne connaissons pas le temps, ni le moment, quand il va venir. Ça, c'est surtout pour la jeunesse. Parce que normalement, qui dit jeunesse, il se croit tout permis. Parce qu'il est jeune. Je suis jeune, j'ai 20 ans, j'ai 15 ans, j'ai toute une vie devant moi. Mais la Bible nous dit que la vie, c'est comme un nuage. Un coup de vent, il n'y a plus de nuage. Et nous, c'est pareil. On peut être jeune, mais on peut mourir à n'importe quel moment. À n'importe quel moment. Voilà pourquoi la Bible nous dit que le salut, c'est aujourd'hui. Pas demain, c'est aujourd'hui. Parce que nous ne connaissons pas le moment où nous allons partir. Il faut être prêt. Hein? Et voilà pourquoi nous qui sommes des chrétiens, en sachant que nous avons cette gloire qui nous attend et cette demeure éternelle, nous devons avoir devant nous ce but que nous devons être en communion avec le Seigneur, que nous devons vivre cette vie chrétienne et pas se fier aux choses que nous voyons tout autour de nous. Et il nous le dit plus loin, on l'a vu dans Romains, hein, il dit, de même, ils ont maintenant des autres. Où est-ce qu'il est là? 13, Romains 13. Marchons honnêtement, comme en plein jour. Combien de choses on fait en secret? Ah, personne ne me voit. Personne ne te voit. Mais lui, oui, te voit. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. C'est ça, marcher en communion avec le Seigneur. Marcher dans l'espérance. Paul, il était rempli de cette espérance. Vous me direz, mais lui, c'est Paul. Hein? Mais Paul, il a dit, soyez mes imitateurs comme moi, je le suis du Christ. Et il nous le dit, Paul, dans 2 Corinthiens 5. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de l'être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps ou pas. Si nous mourons, nous devons lui être agréables, soit que nous vivons, soit que nous mourons. Pourquoi? Parce que nous savons que Dieu, un jour, il va intervenir dans notre propre vie. Des gens, ils disent, je ne veux pas de Dieu. Mais Dieu, il va intervenir. Parce que Dieu. C'est ton créateur. Et il va intervenir. Si tu n'as pas mis ta vie en règle avec lui, tu es en marche vers l'enfer. Tu es en marche vers l'enfer. Tandis que si tu as le Seigneur Jésus dans ton cœur,
tu es en marche vers la gloire et vers la demeure éternelle, vers cette demeure qu'elle est toujours là et qui nous attend. Est-ce que vous y pensez à cette demeure que nous avons au ciel? Je vous le dis toujours, hein? Moi j'y pense très souvent, un peu comme l'extraterrestre, E.T., je ne sais pas comment ça se prononce en anglais, hein? Mais lui, il savait, il était descendu ici-bas sur Terre, et il était avec ce jeune homme, il a dit, oui, t'es content ici, oui, mais maison. Il n'avait qu'un seul souhait, c'est sa maison. Nous, en tant que chrétiens, nous devons être comme ça. Nous sommes ici en marche. Nous sommes ici de passage. Comment est-ce qu'on sait qu'on est de passage? Parce qu'un jour, on doit déloger. Un jour ou l'autre, on doit déloger. Et on est en route vers une demeure éternelle de paix, de joie, de bonté, de repos, ou une demeure éternelle de souffrance, de peine, de malheur et toutes ces choses-là. Alors, c'est à nous de savoir vers quel but on marche. Et encore une fois, Dieu, il veut que tous soient sauvés, que tous arrivent à la connaissance de la vérité de Jésus-Christ. Et son souhait, c'est que tous ils aillent habiter cette demeure céleste. Mais l'homme, il dit non. Voilà pourquoi Dieu, il est obligé d'accomplir notre propre volonté. Et Paul, il avait cela, il dit, soit que nous mourons, soit que nous vivons, nous devons lui être agréables. Et si nous sommes en communion avec le Seigneur, nous lui sommes agréables. Donc nous sommes en train de marcher, hein, dans l'espérance de ce retour, pour que lorsqu'il vient, il nous trouve prêts, pas endormis. Réveillez-vous, vous qui dormez. Parce que si on ne fait pas la volonté de Dieu, si on ne fait pas les œuvres de Dieu, nous dormons. Nous dormons. Et un mort, et quelqu'un qui est vivant, il ne dort pas. Il est vivant. Et nous sommes vivants par et à travers Jésus-Christ, qui nous a donné la vie. Le temps est précieux. Nous sommes ici, sur cette terre, qui est pour quelque temps. Ensuite, nous allons monter au ciel. Donc, il faut penser aux œuvres de Dieu. Il ne doit pas y avoir autre chose qui doit nous préoccuper que l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce que les autres choses, votre Père sait de quoi vous avez besoin. Et il vous le donnera. Cherchez premièrement les royaumes de Dieu et toutes les autres choses, ils vous seront donnés ensuite. Des fois, on a des difficultés. Alors, réfléchissons. Est-ce que je mets Dieu à la première place? Parce que c'est ça que la Bible nous dit. Cherchez premièrement les royaumes de Dieu et toutes les autres choses, ils vous seront données ensuite. Alors, lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, réfléchissons à cela. Est-ce que je suis en train de marcher vers ce but de Dieu? Parce que c'est une promesse de Dieu. Cherchez d'abord les royaumes de Dieu et toutes les autres choses, ils vous seront données en plus. Et c'est ça que le Seigneur... Et il y a des choses que nous, en tant que chrétiens, nous devons... Dans 2 Corinthiens 7, il nous dit, « Ayant donc de telles promesses, c'est-à-dire toutes les promesses que Dieu il nous a faites dans sa parole. » Et il dit, « Ayant donc de telles promesses, quelles sont ces promesses ?» Et plus loin, Paul nous dit, en se souvenant d'un passage de l'Ancien Testament, il dit, « J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et eux mon peuple. » C'est dans 2 Corinthiens 6, verset 16. Voilà, ça c'est une promesse. Ayant de telles promesses. Mais qu'est-ce que ça signifie avoir Dieu pour Dieu et que nous soyons son peuple? Apocalypse 21, il nous l'explique. Parce qu'à ce moment-là, nous serons encore une fois dans la gloire et nous serons encore une fois dans notre demeure céleste. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, voici, versets 3 à 5, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, j'ai fait toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » C'est ça les promesses. Ayant de telles promesses, comment est-ce que nous continuons à dormir? Au lieu de rester éveillés, tout autour de nous, il y a des gens qui encore ne connaissent pas la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et c'est à nous de leur apporter tout ça. Voilà pourquoi nous sommes en marche vers ce but-là, que des gens ils puissent se tourner vers le Seigneur Jésus. Et c'est ça que le Seigneur il nous dit de faire. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Hein? Et nous sommes des gens, encore une fois, avec de telles promesses, nous sommes des gens riches. Est-ce que vous êtes riches? Pourquoi est-ce que nous sommes riches en tant que chrétiens? Il nous est dit dans Corinthiens 3, soit les choses présentes ou à venir, tout est à vous. Mais il continue, hein? Vous êtes à Christ. Et Christ est à Dieu. Ce que Dieu, tout nous appartient. Parce que tout appartient à Dieu. Et nous allons partager toutes ces choses-là. Quel bonheur de savoir cela. Passer quelques années dans la souffrance, dans le désespoir, dans les besoins. Mais regardons ce qu'il y a tout au bout. Il y a la richesse, il y a la gloire, et il y a cette demeure. Si vous voulez connaître un peu plus c'est quoi cette demeure, lisez Apocalypse. Apocalypse, comment elle est cette cité céleste? C'est ça qu'il doit nous faire. Oh, combien pauvres et les plus riches des hommes, les plus riches ici-bas sur cette terre. Car cet homme-là, il est riche maintenant, mais il sera pauvre. Il sera privé de tout. Nous, en tant que chrétiens, nous sommes privés maintenant pendant ce pèlerinage, mais nous sommes riches. C'est ça, là. Hein? Et si vous êtes croyant, si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes riche. Vous êtes riche. Parce que notre Dieu, notre Père, il est immensément riche. Et alors tout ce qui appartient, il va être à nous. Les enfants, quand les parents ils meurent, qui c'est qui hérite? C'est les enfants. Hein? Mais nous sommes les enfants de Dieu. Ce n'est pas que Dieu meurt, mais Dieu, il partage ce qu'il a. Il nous donne. Il nous donne. C'est cela que c'est là. C'est notre espérance, qu'un jour il va venir. Et vous savez, ça c'est encore pas seulement l'espérance, mais c'est aussi que nous sommes en marche avec cette espérance, mais aussi que nous sommes consolés. Paul, il nous le dit, consolez-vous avec ces paroles, consolez-vous avec ces promesses. Et c'est ça notre vie. C'est ça notre vie, notre marche. C'est une marche d'espérance, c'est une marche de consolation, parce que nous avons pour Père le Dieu de toute consolation. Il est là, à notre côté. On a chanté, je ne m'en souviens plus le titre, vendredi, Il dit, nous sommes dans la souffrance, mais tu es avec moi. Il ne nous a pas dit, nous sommes dans la souffrance, délivre-nous. Non, ce cantique, il disait, je m'en fous de la souffrance, la seule chose qui m'importe, c'est que tu sois avec moi. Et c'est ça la consolation, de savoir qu'on n'est pas seul. Non, jamais tout seul. C'est ce qu'on chante, n'est-ce pas? Jamais. Seigneur, je suis tout seul. Non, tu n'es pas seul. Dieu, il est avec toi. Dieu, il désire être avec toi. Dieu, il désire cheminer avec toi. Dieu, il désire t'accompagner, te donner tout ce dont tu as besoin. Il le désire de tout cœur. Mais toi, nous, est-ce que nous le désirons? C'est ça le bout de la marche. Dieu, il désire donner, faire, mais nous, vous savez, c'est nous qui décidons. Dieu ne nous prendra jamais par l'oreille, il dit Aldo, il faut que tu crois. Non. Dieu, il te dit, voilà, j'ai mis devant toi un chemin qui mène à la bénédiction et l'autre qui mène à la malédiction. Choisis. C'est ta faute si je suis en enfer. Non, ce n'est pas la faute à Dieu, c'est ta faute. Parce que Dieu, il a tout fait pour que tu puisses être avec lui dans cette éternité bénie. Mais toi, tu ne l'as pas voulu. Et c'est là de nous amener encore une fois à la consolation. Savoir que nous sommes auprès de Dieu, que bientôt notre Seigneur, notre Sauveur, il va venir nous prendre. Et comme je dis toujours, il nous aime tellement qu'il n'envoie pas ses anges nous chercher, mais il vient lui-même. Il vient, il s'arrête dans les airs et il va nous attirer à lui comme un aimant. Lui-même, il vient nous chercher. Il nous aime tellement, le Seigneur. Étienne, il était en train d'être lapidé. Et on l'a lu tout à l'heure que le Fils de Dieu, il s'est assis à la droite de Dieu. Mais lorsqu'il y a un chrétien, quelqu'un qui lui appartient, qui meurt, il s'élève de son trône et il accueille. Pourquoi ? Parce qu'il est rempli d'amour pour nous. Parce qu'il est mort pour nous. Et alors, lorsque un de ses enfants il le rejoint, il s'élève et il accueille. C'est un grand Dieu que nous avons. Dans l'Ancien Testament, les croyants étaient animés de ce désir d'être auprès de Dieu. Dans l'Ancien Testament. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Nous sommes dans la dispensation de la grâce. Dans l'ancienne alliance, dans les psaumes 25:1, il nous est dit « Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. » Mon âme soupire et languit auprès du parvis de l'Éternel. Il disait « Je désire tellement être auprès de Dieu. » Mais c'est ça. Est-ce que nous languissons? Est-ce que nous soupirons à cela? Être auprès de Dieu? Il y a aussi dans les psaumes, toujours 25, il dit « Seigneur, mon âme soupire après toi. » Mon âme, Seigneur, soupire après la richesse. Mon âme, Seigneur, soupire avoir une belle maison, avoir un beau diplôme. Non, disait « Mon âme soupire après toi, Seigneur. » C'est ça, désirer là. Et avec de telles promesses, nous devons avancer. Hein? Et Paul, il a dit, je cours vers ce but. Je ne regarde pas autre chose que ça. Les choses anciennes, je les regarde comme de la boue. Ce qui m'intéresse, c'est être en communion avec le Seigneur, c'est avancer avec le Seigneur. Il était en marche pour cela. Il était en marche. Lui, Paul, il voulait courir. Il voulait aller partout. Il savait qu'il était là pour évangéliser, il voulait aller à droite et à gauche. Mais c'est le Seigneur qui intervient. Il a dit, non, non, Paul, tu ne vas pas. C'est lui qui l'interdisait d'y aller. Mais il dit, je cours vers le but. Nous avons le privilège de pouvoir marcher avec le Seigneur. Mais des fois, nous le laissons derrière. Nous avançons plus vite que le Seigneur. Et vous savez bien que si on n'a pas le Seigneur devant, nous ne pouvons pas l'imiter. Nous faisons ce que nous voulons, pas ce que le Seigneur fait. Et il dit, soyez mes imitateurs. Jésus, il est notre modèle. Et nous devons le suivre dans ce chemin. Parce que lui, il a fait le même chemin. Lui qui était Dieu, il n'a pas eu un chemin plus facile. Au contraire, il a eu un chemin beaucoup plus difficile. Il a donné sa vie pour des êtres qui ne méritaient rien. Et des fois, il avait rien à manger. Il a dit, les fils de l'homme ne possèdent rien, même pas une pierre où mettre sa tête. Mais il est venu, il a marché avec le Seigneur, il a accompli la volonté du Seigneur, et voilà où il est maintenant, il est assis à la droite de Dieu. Et c'est exactement la même chose qui nous est promis. Ayant de telles promesses, nous devons le prendre pour nous, et c'est dire qu'un jour, ce que Jésus il a vécu, nous le vivrons. Un jour, nous serons ressuscités. Nous allons nous asseoir à la droite de Dieu, parce que nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Et nous allons gouverner avec le Seigneur Jésus. Mais encore une fois, dans cette marche, il faut que nous cheminions avec le Seigneur, en communion avec le Seigneur, et que nous accomplissions les œuvres de Dieu. Voilà pourquoi c'est très important. Et Paul il disait encore, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Si on a Christ dans notre cœur, c'est ça notre vie, notre but. L'espérance, la gloire. Et tout cela, elle sera notre consolation pendant ce cheminement. Dans ce désert que nous sommes en train de traverser. Ça, c'est notre consolation, en sachant qu'un jour, nous serons dans cette gloire et dans cette demeure éternelle. Est-ce que c'est ainsi que nous marchons? Et ça, il n'y a que nous qui pouvons le dire, oui, je marche ainsi, non. Il faut que je change. Oui, je marche ainsi et j'attends la gloire de Dieu qui se manifeste. Ça, c'est à chacun de nous de répondre à cela. Hein? Notre vie est-elle orientée vers Dieu? Cherchez d'abord les royaumes de Dieu. Qu'est-ce que c'est que nous mettons devant nous, premièrement? Est-ce que c'est Dieu ou c'est nous-mêmes? Et c'est de là que viennent toutes les difficultés qu'on a des fois à arriver. On l'a vu vendredi aussi, Josué, hein, il a envoyé des espions, il a vu qu'ils n'étaient pas nombreux, et alors il a écouté ce que les espions ils ont dit, il a dit « c'est pas la peine de déranger tous les peuples, envoie une centaine de personnes ». On est beaucoup plus fort qu'eux, là. Il a envoyé et ils ont été défaits. Et après, il a été pleuré auprès de Dieu. Oui, alors, pourquoi? Avant de faire quoi que ce soit, il faut chercher d'abord le royaume de Dieu. Chaque chose que nous devons faire, il faut se tourner premièrement vers lui. Si on veut être des vainqueurs, parce que toute chose concourt au bien. Grande ou petite difficulté, il est là, il faut lui donner la première place. Il n'y a pas de petites difficultés. Il y a un Dieu tout-puissant. Mais la question, c'est toujours là. Avons-nous confiance en ce Dieu? Est-ce que nous sommes en marche avec lui? Mais sachant que lui, il désire et il veut être avec nous dans ce voyage. Il veut être au milieu de nous. Je serai leur Dieu, vous serez mon peuple. Il désire ardemment cela. Mais nous, le voulons-nous? Le Seigneur, il a dit, je suis venu vous apporter la paix et la joie. Mais vous ne le voulez pas. Voilà une question à poser à chacun de nous. Dieu souhaite toutes ces choses-là, mais nous, les voulons-nous? Amen.